Donc, à la séance dernière, on avait commencé à parler des sophistes à propos de la théorie de la connaissance, hein, à propos des questions d'accès à la vérité ou d'accès à la connaissance à partir de nos facultés, de réflexion sur ce que c'est qu'un phénomène, hein, ce qui nous apparaît. Et on avait particulièrement étudié ça chez Protagoras. Et aujourd'hui, je vous propose de voir la théorie de la connaissance d'un autre sophiste qui s'appelle Gorgias. Mais d'abord, je vous rappelle un peu ce qui est caractéristique du mouvement sophistique en général, parce qu'on va se poser la question progressivement de savoir qu'est-ce qui distingue finalement un sophiste d'un philosophe, hein, pourquoi est-ce qu'on les a appelés comme ça, et pourquoi est-ce qu'ils ont subi un rejet de la part des philosophes de cette époque. Donc ce qui caractérise de manière, disons, un peu extérieure et secondaire le mouvement sophistique, c'est que c'était surtout des orateurs et des professeurs de rhétorique qui souvent passaient de cité en cité en proposant leurs services, des services donc d'une part de professeurs d'art oratoire et dont pour lesquels ils faisaient payer leurs leçons très cher, et ce pourquoi c'était un des reproches, hein, par lesquels on les blâmait, parce que bon, pour les philosophes, la connaissance ne se vend pas, elle se donne ou elle se fait ensemble. Et alors plus important, il est clair qu'il proposait quelque chose qui, dans les cités, était vraiment bienvenu et demandé à cette époque, parce qu'on est dans une époque d'extraordinaire activité politique. Et donc, eux, ce qu'ils proposaient, c'était à la fois des discours politiques et des discours judiciaires. Donc, l'art oratoire, hein, était principalement focalisé sur ces deux types de discours. Discours judiciaire parce que n'importe quel citoyen pouvait être appelé à siéger dans un tribunal ou à venir lui-même défendre une cause ou au contraire venir lui-même comme plaignant devant un tribunal. Et donc tout le monde avait besoin de maîtriser la parole, une parole persuasive, il fallait convaincre et tout le monde n'en avait pas nécessairement les moyens, hein, ce n'était pas un apprentissage traditionnel jusque-là. Donc, ceux qui avaient les moyens financiers pour le faire allaient chercher les leçons des professeurs d'art oratoire pour pouvoir mieux se débrouiller dans ce contexte. Même chose dans le contexte proprement politique de l'Assemblée, puisque dans l'Assemblée des citoyens, et tout de même, dans la plupart des cités, il y avait une Assemblée des citoyens, puisqu'il fallait pouvoir là aussi prendre la parole, défendre une opinion, essayer de l'emporter par son opinion, il fallait là aussi maîtriser l'argumentation, maîtriser la parole persuasive, et là aussi on avait recours à des spécialistes pour essayer d'apprendre à faire passer le mieux possible son opinion. Et en outre, les sophistes recevaient aussi parfois des commandes de la part des cités, des commandes de discours dans le cas d'une célébration particulière de la cité, d'un événement particulier, où cette fois-ci c'était l'art rhétorique dans tout son côté décoratif et un petit peu exaltant, hein, pouvant exalter la cité qui était requis à ce moment-là. Et donc ils étaient spécialistes en tout ça. Et Gorgias particulièrement, qui vient de Sicile, de Léontium, c'est-à-dire c'est une cité qui est proche de Syracuse. Et Gorgias s'était fait particulièrement connaître pour ses apports à la rhétorique et en particulier pour son utilisation toute nouvelle de figures de style. D'autre part, il s'était fait connaître aussi par le fait que sa cité, Léontium, l'avait envoyé comme ambassadeur à Athènes pour demander de l'aide aux Athéniens, à l'assemblée du peuple, hein, donc, pour demander de l'aide dans un conflit qui opposait la cité de Léontium à Syracuse, justement. Hein, donc Léontium étant menacé de destruction par Syracuse, et il a tellement bien convaincu les Athéniens qu'il a obtenu cette aide. Ils sont venus à la rescousse contre Syracuse. Et il y a un historien du 1er siècle avant notre ère, qui s'appelle Diodore de Sicile, qui décrit le succès qu'a obtenu Gorgias. On situe cette ambassade en 427. 427 avant notre ère, c'est la grande époque de Périclès, c'est la grande époque d'Athènes. Bon, c'est déjà pendant la guerre du Péloponnèse, hein, donc il y a déjà un affaiblissement qui va finalement avoir raison des cités. Mais on est encore dans l'apogée à la fois politique et culturelle d'Athènes. Et donc cet historien dit ceci de Gorgias: « La nouveauté de son style surprit les Athéniens, peuple lettré et spirituel, qui furent très impressionnés. C'est qu'il était le premier à se servir de figures de style extrêmement raffinées et débordantes de virtuosité. antithèse, balancement, parisose, rime et autres procédés qui, du fait de leur nouveauté, méritèrent alors un bon accueil, quoique maintenant ils passent pour affectés et paraissent ridicules lorsqu'ils reviennent trop souvent jusqu'à l'écœurement. Il y a évidemment ce côté de la rhétorique surchargée qui devient ridicule. Déjà Aristote, donc à peine, même pas un siècle plus tard, déjà Aristote, dans sa rhétorique à lui, disait qu'il ne fallait pas exagérer avec les figures de style parce que sinon ça produisait l'effet inverse de celui qu'on recherchait. Au lieu de plaire et d'intéresser, au contraire, ça dégoûtait. Je poursuis ce texte de Diodore de Sicile. À la fin, il persuada les Athéniens de conclure une alliance avec les Léontins, et quand il s'en retourna à Léontium, il s'était attiré l'admiration des Athéniens par sa maîtrise de la rhétorique. Bon, on dit même que Gorgias a eu tellement de succès et a suscité tellement l'admiration qu'on lui fit ériger une statue en or dans le temple d'Apollon à Delphes. Alors, vrai ou pas, voilà, c'est ce qu'on raconte. Bon, mais à part ça, ce qui nous intéresse plus, bon, en tant que pensée philosophique, on va l'aborder tout de suite, mais d'abord juste encore un petit détail à propos de l'importance que Gorgias donnait au langage. Il y a un de ses discours conservés, on en a conservé très peu, mais il y en a un d'eux où justement Gorgias essaye de montrer à quel point le langage est important, à quel point le langage est puissant, à quel point donc c'est un instrument extraordinaire pour celui qui le maîtrise. Et ce discours s'appelle l'éloge d'Hélène. Il s'agit de Hélène de Troie. Et Gorgias veut montrer que Hélène de Troie n'est absolument pas responsable de ce qui a déclenché la guerre de Troie. Donc elle n'est pas du tout coupable de son enlèvement par Paris. Bon, parce qu'il y avait beaucoup de doutes à ce propos. Si vous lisez l'Iliade, on voit bien que Hélène a été bien contente de suivre Paris et de quitter son mari. Donc Gorgias essaye de l'innocenter. Et comment est-ce qu'il l'innocente? Il lui dit, mais il y a trois raisons pour lesquelles elle a pu être emmenée par Paris. Ou bien c'est la contrainte, la violence pure. Et à ce moment-là, bien entendu, elle n'est pas coupable, elle n'est pas responsable, elle n'a pas pu se défendre. Ou bien c'est qu'elle est tombée amoureuse de Paris. Donc c'est l'intervention d'Héros. Mais Héros, c'est un dieu. Comment voulez-vous qu'elle résiste à un dieu? Aucun mortel ne peut résister à un dieu. Donc là non plus, elle n'est pas responsable, elle n'est pas coupable. Et la troisième possibilité, c'est qu'elle a été convaincue par le beau discours de Paris. Et bien là, il faut vous dire qu'elle est tout aussi innocente si c'est ça qui l'a emportée, parce que le discours est aussi fort qu'un dieu, est aussi fort qu'une violence. Donc, conclusion, elle est de toute façon innocente. Mais vous voyez sur quoi lui, il faisait porter évidemment tout son engagement, c'était de montrer cette puissance de la persuasion. Alors, du côté plus philosophique, le discours qui concerne directement la philosophie, en tout cas parmi ceux qu'on a conservés de Gorgias, c'est un discours qui s'appelle « Du non-être » et qui s'oppose directement à la thèse parménidienne de l'être, dont vous avez le texte là et qu'on va voir juste après. C'est un discours qui est rapporté par Sextus Empiricus, dont je vous ai déjà parlé, qui est un sceptique du IIe siècle de notre ère et qui a rassemblé en fait tous les textes qui s'opposent à la croyance en une vérité ou en la recherche d'une vérité. Il rassemble tout ce qui essaye de détruire l'idée qu'il existe une vérité. Et donc il prend ce discours de Gorgias comme un des meilleurs témoins de ce genre de courant, de mise en question. Ce discours de Gorgias, il est articulé en trois étapes. Pour s'opposer à la pensée de Parménide, donc il n'y a pas besoin de la connaître déjà pour savoir, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Pour s'opposer à la pensée de Parménide, il dit premièrement, rien n'est. Rien n'est, au sens du verbe être. Rien n'est. Deuxième thèse, même si quelque chose est, ce n'est pas connaissable. Troisième thèse, même si quelque chose est et est connaissable, ce n'est pas communicable aux autres. Et voilà ce qu'il entreprend de démontrer, et il le démontre avec une suite extraordinaire de syllogismes faux, de syllogismes erronés qu'on a appelés des sophismes à partir du moment où ils étaient volontaires. Donc quand il y a une volonté de tromper, on appelle un faux raisonnement un sophisme. Quand il n'y a pas de volonté de tromper et qu'il y a juste erreur, on l'appelle un paralogisme, conventionnellement. Un exemple de syllogisme faux, vous en trouvez plein par exemple dans Ionesco, la cantatrice chauve. Il s'est amusé à faire toute une série de syllogismes faux, très simples et donc très faciles à identifier, du style tous les hommes sont mortels, mon chat est mortel, donc mon chat est un homme. Alors, ça a l'air d'être deux prémices, et puis la conclusion, ça a l'air logique, et en fait, c'est complètement faux. Et Aristote, c'est le premier à avoir fait toute une théorie du syllogisme en montrant quels étaient les schémas des prémices et de la conclusion qui étaient correctes et ceux qui n'étaient pas corrects. Bon, alors, on peut retrouver, si on prend le discours de Gorgias, on peut retrouver toutes les erreurs de construction du syllogisme dans son discours. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, dans l'originalité de Gorgias et vraiment tout son intérêt, je dirais, là vraiment il y a un intérêt positif, c'est au cours de la troisième étape, pour donc défendre l'incommunicabilité de la connaissance ou de l'être, Gorgias dit que. Gorgias remet en question. La nature référentielle du langage, donc le fait que les mots correspondent à des étangs, correspondent à des choses, que le langage dit quelque chose des étangs, et que le langage est donc un instrument de connaissance, est un instrument cognitif, qu'en plus on peut se transmettre entre nous. Donc voilà ce qu'il essaye de déceler complètement. Et donc on va lire ce texte, c'est le texte qu'on n'avait pas eu le temps de lire lors de la dernière séance. Je vais le couper en trois parties et chaque fois commenter une partie après l'autre. Il est noté donc comme fragment, il est noté B3 et il est rapporté par Sextus Empiricus. Même si on pouvait saisir les temps, donc vous voyez l'énoncé de la troisième thèse, même si on pouvait saisir les temps, on ne pourrait le communiquer à autrui. Car si les étangs, donc les étangs, je vous rappelle, c'est un mot très, très courant, ça veut dire simplement les choses qui existent. Toute chose qui existe, peu importe de quelle façon, c'est un étang. Et autant s'habituer à utiliser le mot étang, même s'il paraît un petit peu étrange et pas familier, plutôt que le mot être, parce que l'être et l'étang, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, les Grecs en étaient parfaitement conscients, ils utilisaient des mots différents. L'être, c'est le fait d'être ou l'existence de quelque chose, tandis que l'étang, c'est la chose qui est. Justement, qui possède l'être. Donc autant distinguer clairement les deux. Donc, car si les étangs qui se trouvent à l'extérieur de nous sont visibles, audibles et sensibles par plusieurs sens. Donc on parle ici des étangs phénoménaux, des phénomènes, des étangs sensibles. Donc même s'ils sont sensibles et que parmi eux, les visibles sont saisissables par la vue, les audibles par l'ouïe et non l'inverse. Ah donc déjà, il faut bien intégrer les prémices du raisonnement. Les étangs sont sensibles, les uns par la vue, les autres par l'ouïe, et ceux qui sont saisissables par la vue ne le sont pas par l'ouïe, et réciproquement. Comment donc pourrait-on les révéler à quelqu'un d'autre? En effet, ce par quoi nous les révélons, donc par quoi nous les communiquons, c'est le langage. Or, le langage n'est pas les objets ni les étangs. Donc, ce ne sont pas les étangs que nous révélons aux autres, mais le langage, qui est autre chose que les objets. Donc, vous voyez cette dissociation. Le langage, les mots, ce n'est pas les choses, les mots. Donc, quand on communique quelque chose à quelqu'un, on lui communique des mots, on ne lui communique pas des choses. Et donc, c'est la même chose, l'analogie est faite avec le fait que quand on voit une image, on ne voit pas un son. Et donc, on ne communique pas les images à l'oreille, ni les sons aux yeux. Eh bien, de la même façon, quand on communique des paroles entre nous, on ne communique pas les étangs. Et donc, vous voyez comment il avance sa thèse, les étangs ne sont pas communicables. Ce qui est communicable, c'est les mots, c'est tout. Après, on va lui dire, oui, mais enfin, les mots correspondent aux choses et tout ça. Et donc, voilà la suite, justement, à propos, les mots correspondent aux choses. De même donc que le visible ne pourrait devenir audible et réciproquement, ainsi, puisque l'étang est l'objet extérieur, il ne pourrait devenir notre langage. L'étang, c'est les objets, ce n'est pas le langage. Or, sans être langage, il ne pourrait être montré à quelqu'un d'autre. Alors, dans la phrase suivante, Gorgias va néanmoins réintroduire une certaine liaison entre les mots et les choses, après l'avoir nié de cette façon très radicale, mais il va l'instaurer de manière très réduite, en disant qu'il s'agit simplement d'une relation de production entre les étangs et les mots. C'est-à-dire que les étangs produisent en nous le langage. Voilà comment il l'explique. Le langage, dit-il, se constitue à partir des choses extérieures qui nous parviennent, c'est-à-dire des choses sensibles. De la rencontre avec la saveur naît en nous le langage exprimé à propos de cette qualité. Donc quand on quand on sent une saveur, quand on fait l'expérience d'une saveur, ça suscite en nous le mot correspondant. Alors aussi bien, à tout moment, pour chacun d'entre nous qui a déjà le langage, que peut-être une première fois lorsque les mots ont été créés. Donc c'est valable dans les deux cas. Au moment où les mots ont été créés, ils ont dû être créés comme ça, hein, à force de faire une expérience de certaines qualités sensibles, on les a nommés. Ça a suscité un mot. Et petite digression à ce propos, c'est important de savoir que c'est aussi à cette époque-là qu'on a commencé à s'interroger sur la naturalité du langage ou sur sa conventionnalité. C'est-à-dire, est-ce que les mots ont quelque chose à voir intrinsèquement avec les choses qu'ils désignent ou bien est-ce qu'ils sont complètement arbitraires ? Alors, je vous dis tout de suite, la thèse de l'arbitraire dominait largement. L'arbitraire des mots était ce qui dominait largement, c'est-à-dire que, ne fût-ce que par la variété des langues, hein, ne fût-ce que parce qu'il y a de multiples manières de dire la même chose, ben forcément, il n'y en a pas une qui correspond à la chose et les autres qui ne correspondraient pas. Donc, l'arbitraire du signe est assez évident. Mais il y en avait tout de même qui se demandaient si, à l'origine du moins, avant que les langues évoluent, il n'y aurait pas eu une dénomination plus correcte, une dénomination plus exacte, qui aurait mieux correspondu à la chose et puis qui se serait perdu par l'évolution des langues. C'est notamment la thèse de Platon, hein, d'une certaine manière, dans le Cratyle. Bon, donc, je reviens au texte de Gorgias. De la rencontre avec la saveur naît en nous le langage exprimé à propos de cette qualité et de l'impression de la couleur, le langage exprimé à propos de la couleur. Hein, donc, en voyant des couleurs, on les nomme. S'il en est ainsi... Alors, attention à la conclusion qu'il tire. S'il en est ainsi, ce n'est pas le langage qui manifeste l'extérieur, donc par lequel on peut connaître l'extérieur, mais c'est l'extérieur qui révèle le langage. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est que... donc, il faut prendre les deux verbes « manifester » et « révéler » au sens de « expliquer ». Hein, on considère, dans une théorie de la connaissance, on considère qu'on peut connaître les temps par le langage. Que en parler, construire des raisonnements, donc utiliser le langage, permet de connaître et d'expliquer les choses. Lui dit, le langage n'explique absolument pas les choses, parce que c'est l'inverse qui se passe. C'est les choses qui expliquent le langage. C'est-à-dire qu'on peut se demander pourquoi tel mot, et on répondra parce que telle chose l'a produit. Mais on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas dire pourquoi telle chose et l'expliquer par les mots. Donc vous voyez, il inverse la relation qu'on a l'habitude de faire entre le langage et les choses. La liaison qu'on fait d'habitude entre le langage et les choses, on fait une double liaison. Hein. On dit les mots ont été créés pour désigner des choses extérieures, mais à partir du moment où ce langage a été institué, on peut l'utiliser pour décrire ces choses extérieures, pour mieux les connaître, pour les comprendre, pour les expliquer par des raisonnements, etc. Donc, à partir de ce moment-là, le langage devient un instrument de connaissance pour les étangs. Mais Gorgias nie cette réciprocité de la relation. Il dit, non, pas du tout, c'est seulement le langage qui s'explique par les choses, par les étangs, parce qu'on peut seulement dire pourquoi tel mot existe, c'est parce qu'il a été suscité par telle chose. C'est tout. Et on ne peut pas dire à l'inverse, pourquoi telle chose existe, qu'est-ce qu'on répondra ? Parce qu'elle a été produite par tel mot, ce serait faux. Donc voilà comment il argumente son impossibilité de la connaissance. Hein, comment il essaye de montrer que la connaissance est impossible. Le langage ne sert pas, en tout cas, à la connaissance. Alors, encore une petite partie. Et il n'est pas possible non plus de dire que le langage existe de la même façon que les choses visibles et audibles, donc hein, que les étangs sensibles, de telle sorte qu'à partir de l'objet lui-même et de l'étang, il puisse révéler les objets et les étangs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il suppose qu'on lui objecte que, selon sa propre analogie d'ailleurs, puisqu'au départ lui-même a fait cette analogie hein, entre les sons, les images, et puis les mots et les choses, donc selon sa propre analogie, on pourrait dire, mais les images et les sons, hein, donc ce que nous pouvons saisir des étangs par les sensations, les images et les sons nous disent quelque chose des étangs. Il nous apporte une certaine connaissance des étangs. Alors pourquoi ce ne serait pas pareil avec le langage ? Hein ? On pourrait dire de la même façon, puisque les images et les sons ne sont pas les étangs, ils sont distincts, c'est autre chose. Ce n'est pas les étangs en eux-mêmes. Les images, les sons, ce n'est pas la chose même, mais c'est émis par la chose même. Et donc ça nous permet de connaître quelque chose de la chose elle-même. Pourquoi est-ce qu'il n'en irait pas de même des mots ? On pourrait dire les mots aussi, ils disent quelque chose des étangs à leur manière, de la même manière hein, que les sensations. Et donc par cette analogie, on pourrait faire cette objection à Gorgias, dire si, de la même manière que les sensations nous renseignent, le langage aussi nous renseigne un petit peu, d'une certaine manière, sur les étangs. Alors il va répondre à cette objection. Donc il le nie, hein, il n'est pas possible de le dire, car même si le langage existe, dit-il, il diffère des autres choses existantes et les corps visibles diffèrent autant que possible du langage, car c'est par un autre organe que sont saisissables respectivement le visible et le langage. Ainsi donc, le langage n'indique pas les autres choses existantes, de même que celles-ci ne s'indiquent pas les unes les autres. Donc, comment est-ce qu'il répond à l'objection? Il dit, mais en fait, on ne peut plus maintenir ici l'analogie entre les sensations et le langage, parce qu'il y a trop de différences entre les deux. C'est-à-dire, les sensations sont faites par des organes complètement différents des organes du langage. Les organes du langage, c'est donc l'organe émetteur, hein, la parole, et puis l'organe récepteur, ce qui en nous reçoit la langue et la comprend. Ce n'est pas seulement l'ouïe, c'est ce qui comprend les mots. Et donc ça, ce sont des organes totalement différents, dit-il, des sensations, de telle façon que l'analogie n'est pas valide et qu'il y a une différence beaucoup trop grande, cette fois, entre les étangs et les mots, pour qu'on puisse dire de la même façon qu'avec les sensations, ça nous renseigne sur les étangs. Voyez ? Voilà tout son raisonnement. Et c'est une argumentation qui est redoutable, je veux dire, qui va bien au-delà de du simple doute sur une correspondance entre le langage et la chose. C'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment une négation de la possibilité de connaître par le langage. Mais en même temps, ce qui est intéressant, et ce qui intéresse particulièrement Gorgias, c'est que ça lui permet aussi d'autonomiser le langage par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le langage n'est plus utilisé comme un instrument de connaissance, il ne nous renseigne pas sur le monde extérieur, ne cherchons donc pas à ce qu'un discours soit adéquat aux choses. Mais l'adéquation du discours aux choses, c'était la garantie de quoi? C'était la garantie de la vérité. On disait qu'un discours vrai, c'est un discours qui dit les choses telles qu'elles sont. Donc il fallait pouvoir vérifier que le discours, effectivement, correspond à la réalité des choses, correspond à l'état de choses tel qu'il est. À partir du moment où on déconnecte complètement ces deux niveaux, où on dit « c'est même pas la peine de chercher, le discours ne correspond pas du tout à la réalité, hein, aux étangs, et donc c'est même pas la peine de chercher quel est le discours qui est le plus vrai, hein, qui est plus en adéquation avec les choses telles qu'elles sont », on évacue la question de la vérité. On l'évacue complètement. Un discours vrai, ben, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens, puisqu'il est déconnecté des étangs. Ça n'a pas de sens. Et donc, ne commençons pas à nous disputer pour savoir si ceci est plus vrai que cela. Ce n'est pas ça qui compte. Et donc, c'est en ça, évidemment, que Sextus Empiricus, il a bien repéré hein, que Gorgias détruit le critère de la vérité. Il détruit le critère qui nous permet de juger de ce qui est plus vrai et de ce qui est moins vrai. Tout ça est évacué. Alors, déjà à son époque, on avait tout de suite fait le reproche à cette position d'être dans un paralogisme, de tomber dans un paradoxe, c'est-à-dire de se détruire elle-même, parce que le discours qui dit qu'aucun discours n'est plus vrai qu'un autre, ben, du coup lui-même n'est pas plus vrai qu'un autre non plus. Donc comment est-ce qu'il peut affirmer ça sans se contredire? C'est un paradoxe. Mais ça n'a aucune gravité, ce genre d'objection pour les sophistes, puisque eux, ils se situent tout de suite à un autre niveau, au niveau où ils disent « il faut arrêter de penser en termes de vérité. Un discours ne doit pas être jugé selon qu'il est plus ou moins vrai. Ça n'a aucune importance. Vous dites que notre discours n'est pas plus vrai que le vôtre. Nous, ça ne nous importe absolument pas. Ce n'est pas ça notre intérêt. Ce n'est pas ça qu'on essaie de défendre. Notre critère pour dire que notre discours est le meilleur, c'est qu'il est plus persuasif et plus puissant, plus fort. C'est ça qui nous intéresse, c'est que notre discours soit plus persuasif. Alors, s'il ne persuade pas par sa vérité, par quoi est-ce qu'il persuade? Il persuade parce qu'il vous mène là où on a envie de vous mener. De n'importe quelle manière, il vous mène là où on a envie de vous mener, bon, notamment par le genre de raisonnement que lui-même produisait. Ou par l'émotion qu'un discours pouvait susciter. puisque notamment tout ce qui était discours judiciaire était extrêmement utilisait extrêmement le ressort de l'émotion hein, pour apitoyer le jury par rapport à l'accusé ou pour le mettre en colère au contraire, etc. Bon, on jugeait beaucoup sur les émotions. C'est d'ailleurs là aussi condamné dans la rhétorique d'Aristote, cet abus de l'émotion. Donc on voit bien sûr qu'ils avaient une théorie pour dire que leur propre discours était meilleur que les autres, mais ce n'était pas du tout basé sur la vérité. Ils avaient évacué cette question-là complètement. Alors, par conséquent, sachant ça, on commence à comprendre le rejet qu'ils ont subi de la part de philosophes comme Platon et Aristote. Des philosophes pour qui l'activité philosophique, c'est la recherche de la vérité. Ce qui compte dans une activité intellectuelle, c'est son intention, c'est le but recherché. Et toutes les méthodes qu'on va mettre au point pour essayer d'atteindre ce but, ces méthodes doivent être guidées par l'intention d'atteindre la vérité. On ne va pas mettre des méthodes au point pour accéder à l'erreur. Ce n'est pas des méthodes pour arriver à l'erreur. Toutes les méthodes doivent être guidées par l'intention. Et c'est pourquoi Aristote dit notamment que les sophistes revêtent l'habit du philosophe parce qu'ils s'occupent des mêmes questions. Ils posent le même genre de problèmes, y compris des problèmes extrêmement importants et intéressants, mais ils ont seulement un semblant de philosophie parce que leur intention est autre. Ils ne sont pas dévorés par la passion de la vérité. Ils n'ont pas vraiment envie de savoir ce qu'il en est. Qu'en est-il vraiment, finalement, dans ce discours de Gorgias, de la relation précise qui existe entre les choses et le langage ? Est-ce que lui-même pensait sincèrement que le langage ne dit rien sur les étangs? Est-ce qu'il le pensait sincèrement? On peut en douter, mais ce n'est pas son propos, ce n'est pas là qu'est sa recherche, ce n'est pas là son but. Donc on voit bien le diagnostic, la différence entre philosophe et sophiste, c'est cette différence d'intention. Est-ce qu'on recherche... Alors quand je dis la vérité, ça peut être aussi de manière très sceptique. On peut développer une philosophie sceptique qui dit vraiment, on ne voit vraiment pas comment atteindre une vérité, on met en doute l'existence d'une vérité, on met en doute le fait qu'il existe des absolus, on peut avancer un relativisme tout en restant philosophe. Parce qu'on croit que c'est ça qui correspond aux choses. C'est parce qu'on si on dit les phénomènes ne peuvent être connus que de manière relative, on n'atteint pas une vérité hein, ou une chose en soi, si on dit ça, c'est une position philosophique, parce qu'on pense que c'est comme ça que c'est vraiment. Et on le dit pour cette raison-là. Les sophistes, quand ils avancent leur type de discours, du moins selon l'avis des philosophes, selon ce qu'on leur a reproché, avaient en vue un intérêt autre, qui était un intérêt social, un intérêt personnel, l'intérêt de l'emporter dans une polémique, l'intérêt d'en tirer un profit autre que le profit de la connaissance. Donc voilà en fait ce qui, dans l'Antiquité, était considéré comme la différence entre philosophe et sophiste. D'une part, on explique pourquoi les sophistes sont souvent cités en même temps que les philosophes, parmi eux, comme un courant parmi d'autres. C'est parce qu'ils posent les mêmes questions, ils s'interrogent sur les mêmes thématiques. Et pourquoi ils en diffèrent, et ils ont été rejetés donc, par certains philosophes, c'est parce que, d'une part, leur intention n'est pas vraiment de savoir ce qu'il en est, et les méthodes par conséquent qu'ils mettent au point sont souvent des méthodes qui mènent à l'erreur. Donc notamment plutôt des méthodes de manipulation du langage que des méthodes de déduction logique la plus correcte possible. Oui. Voilà, j'abandonne pour le moment les sophistes, mais on va y revenir plus tard dans une séance ultérieure parce qu'il y a encore tout un pan de leur activité qui est tout à fait important, qui est le domaine politique. Les sophistes, bon, comme ils exerçaient principalement une activité citoyenne, ils ont beaucoup réfléchi aussi philosophiquement sur la politique. Et réfléchir philosophiquement sur la politique, ça veut dire s'interroger sur les fondements de la politique, s'interroger sur les principes ou les valeurs sur lesquelles repose un certain régime, par exemple. De quoi se réclame ce régime pour estimer qu'il est le meilleur ? Investiguons s'il a raison de se réclamer de ça, si ça existe vraiment. Donc on introduit une certaine enquête anthropologique. Est-ce que vraiment on peut dire que l'homme est tel que tel régime lui convient le mieux, etc. Ça c'est une réflexion philosophique. Ou s'interroger sur la justice. tout régime politique prétendant être le plus juste, on va se demander, mais qu'est-ce que c'est la justice ? Pour savoir si, effectivement, tel ou tel régime a le droit de se revendiquer comme le plus juste. Et donc, on va voir un peu plus tard comment Protagoras et Gorgias, de nouveau principalement eux, se sont prononcés sur la justice et sur la démocratie. Donc ça, c'est encore un point vraiment très important de leur pensée. Alors, en attendant, et comme les esprits sont bien échauffés, je passe à Parménide, et c'est important d'avoir l'esprit bien échauffé, parce que Parménide, c'est un philosophe qui n'est pas, qui n'est pas d'un aspect très très facile, enfin qui n'est pas immédiatement très facile à comprendre, en tout cas, pour des raisons à la fois d'expression et pour des raisons aussi probablement volontaires, en raison de son contenu et du contenu qu'il essaie de faire passer. C'est un philosophe donc qui écrit, alors il se situe à peu près pour sa maturité vers 480 avant notre ère, c'est-à-dire il est à peu près contemporain d'Empédocle et d'Héraclite. On a pensé parfois qu'il avait pu connaître la philosophie d'Héraclite, y faire allusion dans son poème et éventuellement s'opposer à Héraclite, mais ce n'est pas du tout certain. Il n'y a pas de nécessité pour que Héraclite soit visé à un certain endroit. On ne sait pas, donc on ne connaît pratiquement rien de sa vie et on ne sait pas quel contact il a pu avoir avec les autres écoles philosophiques. On a ce poème qu'il a écrit donc en vers, hein, en vers de nouveau des hexamètres dactyliques, donc les vers homériques, avec par conséquent une tendance à certains archaïsmes et certaines contraintes d'expression qui sont liées à la versification. Bon, il faut en tenir compte, évidemment, quand on essaye de comprendre ce qu'il a voulu dire, ça complique un tout petit peu le message, cette expression poétique. Ce poème, on ne l'a pas tout à fait en entier, mais on en possède de très nombreux extraits, assez longs, grâce en grande partie à Simplicius, toujours le même, ce bon vieux Simplicius, hein, philosophe néoplatonicien du VIe siècle, qui, parce qu'il commentait la physique d'Aristote et qu'Aristote citait, mentionnait toutes ses œuvres sans les recopier, eh bien Simplicius s'est dit « ces œuvres deviennent tellement rares qu'il faut que je les recopie » et il recopiait donc des grands pans. Merci mille fois Simplicius, de grands pans donc de ces philosophes anciens. Donc on a d'assez grandes parties du poème de Parménide et suffisamment, en tout cas de sa partie principale, la partie qui est consacrée à sa théorie de l'être, pour qu'on puisse vraiment en juger. C'est un poème qui se divise en trois, et on peut vraiment dire qu'il se divise en trois selon la volonté de Parménide, parce qu'il y a des articulations tout à fait explicites entre ces trois parties. La première partie, je ne vous l'ai pas indiquée, pour faire quand même une sélection, parce que sinon ça serait trop long, mais la première partie, c'est une introduction où l'on voit, de type mythologique et symbolique, où l'on voit un jeune homme qui est emporté par un char tiré par des chevaux rapides vers une déesse qui va lui révéler le message qui est la vérité, qui va lui révéler la vérité. Donc c'est mis en scène comme si c'était une révélation divine et avec toute une série de symboles d'opposition entre la nuit et le jour, donc bien sûr la clarté de la connaissance opposée à la nuit, l'obscurité de l'ignorance, enfin, il y a toutes sortes de symboles comme ça. Alors il y a des gens qui se sont amusés à essayer de faire des rapports entre cette symbolique et la théorie de l'être. Je crois que c'est un peu superflu, que c'est une mise en scène, voilà, parce qu'on est dans une époque qui apprécie beaucoup la poésie et que voilà, Parménide a pensé que peut-être ça donnerait une stimulation au lecteur. Ce sont des points de controverse assez secondaires, finalement. La deuxième partie, c'est la partie principale, c'est donc la révélation de la déesse, et c'est ce qu'elle appelle le discours sur la vérité. Et la troisième partie, vous allez voir comment il est introduit, c'est très important, comment elle est introduite, c'est très important, c'est une partie où Parménide expose une physique qui ressemble très fort aux physiques des autres physiciens dont on a déjà parcouru l'œuvre, c'est-à-dire une physique du mélange entre des éléments opposés à partir desquels se font tous les corps, et donc avec, accompagné d'une cosmologie, on explique donc comment se sont formées les étoiles, les planètes, qu'est-ce qui est responsable de leur mouvement, et y compris jusqu'à une biologie, une physiologie, une explication de la reproduction des vivants, etc. Donc tout un parcours scientifique, enfin ce qu'on appellerait scientifique à l'heure actuelle, donc de sciences physiques et biologiques, tout à fait semblable, enfin comparable à ce qu'on a vu chez les Milésiens ou chez Empédocle. Mais ce qui est important, c'est justement l'articulation entre le discours sur la vérité et ce discours physicien. Parce que les deux sont complètement incompatibles, vous allez voir. Et donc ça a été la principale difficulté de l'interprétation de Parménide, et on a lancé toutes sortes d'hypothèses différentes là-dessus pour savoir quel est le statut de chacun de ces deux discours, finalement, pourquoi le deuxième discours, si la vérité se trouve dans le premier. Pourquoi ? Voilà. Donc voilà une des choses qu'on va peut-être essayer d'éclaircir en parcourant ces fragments. Le premier fragment, c'est la fin, donc le début de ce que vous avez sur votre document, c'est la fin de l'introduction, donc quand la déesse accueille le jeune homme et lui annonce qu'elle va lui révéler le tout. Donc allons, moi je dirai, et toi qui écoutes, accueille mon récit, donc je dirai quelles sont les seules voies de recherche pour penser. L'une que est, et qu'il n'est pas possible que ne soit pas, est la voie de la persuasion, car elle suit la vérité. Je m'arrête déjà là. Persuasion, vérité, vous voyez déjà par contraste avec ce qu'on vient de voir chez Gorgias, les deux sont liés. Pour Parménide, ce qui est persuasif, c'est ce qui est vrai. Et on ne peut pas persuader de quelque chose de faux. Donc il va développer un discours extrêmement argumenté, avec des déductions logiques très serrées, même si il faut les reconstituer étant donné le langage poétique, hein, mais avec des déductions logiques, il va faire donc reposer son discours entièrement sur l'argumentation, parce que justement, il veut qu'il soit persuasif. La vérité, certes, devrait s'imposer d'elle-même, mais elle ne le fait pas. En fait, la vérité, elle a besoin, elle aussi, d'argumentation pour convaincre. Sinon, elle ne s'impose pas toute seule. Donc, contrairement à ce que pourrait faire penser l'idée que c'est une révélation, il ne suffit pas de dire « voilà la vérité toute nue », il faut argumenter pour montrer que c'est bien ça. Donc il ne s'agit pas justement d'un discours de révélation dogmatique ou se réclamant simplement d'un principe d'autorité. Bon, les seules voies de recherche pour penser, il y a l'énoncé de deux voies qui sont contradictoires. Donc l'une dit que est, bien entendu on va revenir, c'est là l'essentiel, l'une dit que est, qu'il n'est pas possible que ne soit pas. L'autre, que n'est pas et qu'il est nécessaire que ne soit pas. Je te montre qu'elle est un sentier tout à fait inconnaissable, car tu ne pourrais ni connaître ce qui n'est pas, car ce n'est pas possible, ni le montrer. Et là aussi, vous reconnaissez à quoi Gorgias a réagi. Gorgias a repris la même chose, exactement à l'inverse. Il a dit justement, ce qu'on ne peut pas connaître ni montrer, c'est ce qui est. Alors qu'ici, c'est on ne peut pas connaître ce qui n'est pas, ni le montrer. Donc on voit bien le renversement qu'a opéré Gorgias par rapport à Parménide. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces deux voies, l'une dit « est » et l'autre dit « n'est pas ». Alors, peut-être que vous avez lu dans des ouvrages un peu généraux sur les présocratiques ou sur Parménide que ce qu'on dit habituellement, c'est que selon Parménide, l'être est, le non-être n'est pas. Mais dans le texte, il ne dit pas ça. Il ne dit pas « l'être est », il dit « est », c'est tout. Il dit « est » et ce « est volontairement laissé sans sujet. Alors, en grec, le pronom personnel sujet n'est pas obligatoire, ne doit pas nécessairement être exprimé. Quand on dit « esti », « esti », le simple verbe conjugué, ça suffit pour dire « il est ». Mais le pronom personnel est implicite à condition, évidemment, que le contexte ait déjà introduit ce qu'est le sujet. Donc, quand on dit « il dit », on est censé savoir qui c'est, qui dit. D'accord ? Et à ce moment-là, on n'est pas obligé de le répéter. Mais bien entendu, c'est une langue qui, comme toutes les langues, demande qu'il y ait un sujet à l'action. Donc ici, si Parménide n'a pas du tout mentionné de sujet, et vous verrez que c'est comme ça jusqu'à la fin, à aucun moment du poème, il ne dit « quel est le sujet de « est », mais c'est bien volontaire. C'est bien volontaire. Il y a là, évidemment, le principal de son message. On affirme que « est », mais on ne dit pas quoi. Et c'est pour ça que je vous ai mis tout à la fin un tout petit passage de Mélissos de Samos, parce que ça éclaire un petit peu la question. Alors Mélissos, c'est un disciple de Parménide, dont on a retrouvé aussi pas mal de fragments grâce à Simplicius, qui écrit en prose, lui, donc ça, parfois ça peut un petit peu faciliter l'expression, et qui est extrêmement fidèle à la pensée de Parménide, ce qui n'est pas le cas de tous les disciples, hein, mais en fait, lui, dans son cas, c'est vraiment, il répète la même chose d'une façon un petit peu différente, ce qui permet parfois de confirmer quand on a une hésitation. Et voilà ce qu'il dit, donc, en présentant la même chose, le tout début de cette thèse, il dit « Quoi que ce soit qui était, c'était toujours et ce sera toujours », etc. Et après, il y a la démonstration de l'éternité de ce qui était. Mais l'important, c'est ce « quoi que ce soit qui était », c'était toujours et ce sera toujours. Autrement dit, donc le quoi que ce soit, c'est on affirme que est, mais peu importe ce que c'est qui est. Ce qu'on affirme simplement, c'est qu'il y a quelque chose qui est. Il y a nécessairement quelque chose qui est. Et ce n'est pas important de savoir quoi. La thèse, c'est celle-là. Il faut qu'il y ait quelque chose et non pas du rien. Hein, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui est. C'est tout. C'est ça qui est exclu. Et ça fait penser, alors, en philosophie contemporaine, ça a été utilisé et à partir de là, toute une pensée s'est développée dans le courant heideggerien, hein, donc à partir de Heidegger, pour caractériser la pensée philosophique comme la pensée, justement, de l'être et non pas de l'étant, c'est-à-dire pour la pensée de l'être de ce qui est et non pas de ce qui est lui-même. Donc pour Heidegger, et ce qu'il développe tout à fait à partir de Parménide, hein, il dit bien que c'est à partir de Parménide qu'il trouve ce dont il fait l'essence de la philosophie, ce qui est l'objet de la pensée, ce n'est pas l'étant, donc quand on pense quelque chose, on ne pense pas des choses qui sont, c'est l'être de l'étant. Et l'être de l'étant, selon lui, c'est le fait même qu'il y a de l'étang. Et c'est pourquoi, dans les traductions de type heideggerien de Parménide, on trouve parfois traduit l'oncle « est » sous la forme de « il y a ».« Il y a ». Et donc, ce serait la question du « il y a ». Alors, qu'on peut rapprocher de la question de Leibniz, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi est-ce que l'univers existe, hein, et pourquoi il n'y a pas le rien ? Alors, question, je vous le dis tout de suite, qui dans l'Antiquité ne s'est jamais posée comme telle. Jamais aucun philosophe de l'Antiquité ne s'est demandé pourquoi il n'y a pas rien. Et principalement parce que la plupart de ces systèmes, comme je vous l'ai dit, sont des systèmes sans création. Ce sont des systèmes où l'univers est éternel, et donc c'est un fait qu'il est, et on ne se demande pas pourquoi il a été créé à certains moments. Ce qu'on peut se demander dans une pensée avec un créateur, on peut se demander pourquoi ce créateur, à un certain moment, a ressenti le besoin de créer quelque chose, hein, alors qu'il n'y avait rien avant. Donc on voit bien pourquoi cette question, qu'on appelle parfois la question métaphysique par excellence, hein, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, ne se posait pas dans l'Antiquité. Alors, est-ce que ça nous éclaire, hein, cette interprétation heideggerienne? Est-ce que Parménide a voulu dire quelque chose du genre il faut affirmer il y a, il faut affirmer il y a de l'être? Et si on le prend au sens de il y a un certain étant, il y a une certaine chose qui existe, oui, alors oui, c'est correct. Mais si on le prend à la manière tout à fait strictement heideggerienne, ça voudrait dire encore autre chose, parce que l'être alors signifierait le fait même qu'il existe quelque chose. Et c'est pas de ça que parle Parménide. Je veux dire, Heidegger dira c'est la donation elle-même de quelque chose qui est l'objet de la philosophie, qui est l'être. La donation elle-même. Enfin, bon, alors la donation en plus, bon, c'est un peu un jeu de mots, parce que en allemand, dit il y a, c'est es gibt, c'est-à-dire du verbe donner. Gibt, du verbe donner. Donc, évidemment, il y a un petit peu un jeu de mots. Heidegger, il adorait ça. Mais, enfin, voilà. Si on le comprend donc juste comme ça, le message de Parménide, c'est bien de dire il faut affirmer que quelque chose est. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un message particulier et pas tout à fait trivial et évident? Bon, ça nous paraît assez évident qu'il y a des tas de choses. Déjà, pour le dire, il faut que nous soyons nous-mêmes quelque chose, donc ça paraît assez évident. Mais vous allez voir, ce qui n'est pas évident du tout, c'est ce qu'il met dans ce verbe être. Ce qu'il met dans ce verbe être n'est pas le sens courant. le sens courant de l'existence de tous les phénomènes, justement. Ce ne sera pas ça. Sinon, évidemment, la thèse serait d'une évidence complètement déroutante. Et dans un premier temps, donc, il veut distinguer de ça d'une position qui dirait au contraire « rien n'est ». De la même manière, cette position qui dirait « rien n'est » ne le fera pas sans doute pour nier que nous existons, hein, nous, toutes les choses autour de nous, tous les phénomènes. Ce n'est pas une négation de cela, sinon, encore une fois, ce serait absurde, ce serait un adversaire qui n'existe pas. Non, en fait, c'est probablement parce qu'au sens où Parménide dit l'existence, il y a des gens qui disent que ça, ça n'existe pas. Et on va voir progressivement, mais je peux déjà vous l'annoncer, parce que bon, c'est quand même assez dans l'air du temps, c'est une opposition aux choses qui changent continuellement. Alors, les choses qui changent continuellement, on peut dire que d'une certaine manière, elles ne sont jamais. Hein, puisqu'elles changent, on ne peut jamais fixer leur être. Hein, et au moment où on essaye de dire ce qu'elles sont, elles ont déjà changé. Et donc, on a pu opposer, pour cette raison, le devenir et l'être. Ce qui devient n'est pas. Ce qui se transforme constamment n'est pas dans un sens, au sens où on dira alors être, ça veut dire être permanent, être toujours pareil, hein, être identique, ne pas changer. Et de fait, si on réfléchit aux conditions de la connaissance, y compris aux conditions que la science contemporaine accepterait pour la connaissance, on a besoin d'une certaine fixité. Hein, on a besoin de dire, bon, les choses sont en permanence comme ça, pour pouvoir en faire une règle ou une loi scientifique. Une loi scientifique, elle est générale. Elle ne dit pas comment est la chose à telle seconde, sachant que la seconde d'avant, elle était autrement, et la seconde d'après, elle sera autrement. Sinon, il n'y a pas de science de ce qui est changeant constamment. La science, évidemment, elle n'existe que parce qu'il y a des régularités, des permanences, hein, ou des choses qui sont fixes, qu'on peut dire une fois pour toutes, dont on peut dire, voilà, elles seront toujours comme ça. Hein, donc, c'est déjà ça qui se profile ici, et c'est la première fois que c'est formulé de cette façon-là. Mais après, ça va devenir tout à fait canonique, en particulier avec Platon. C'est cette opposition entre ce qui est, qui donc mérite ce mot être parce que c'est permanent, ça reste identique, et ce qui devient, c'est-à-dire ce qui est toujours changeant, autrement dit, tout le monde phénoménal. Et donc on voit bien qu'ici, Parménide ne pose pas la question à propos du monde phénoménal pour savoir si oui ou non il existe ou pas. Évidemment, ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est de manière totalement permanente et toujours identique à elle-même. Et c'est cet objet-là qui l'intéresse, comme objet philosophique. Et donc, il écarte la voie qui dirait « il n'y a rien de tel, il n'y a rien qui puisse être fixe et permanent, il n'y a que des choses changeantes. » C'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'il aurait pu s'opposer à Héraclite, puisque Héraclite est connu, au contraire, comme le penseur de la mobilité, hein, de toute chose, tout se transforme toujours. Remarquez que ce n'est pas tout à fait vrai non plus, c'est un peu exagéré de présenter Héraclite comme ça, parce que Héraclite reconnaissait aussi des choses permanentes. Mais ça, j'y reviens, je pourrais y revenir. Donc, peu importe. En tout cas, il y a ici la position de deux voies de recherche, hein, deux voies, deux chemins, sur lesquelles la pensée pourrait a priori cheminer. Ces deux voies sont strictement contradictoires. Si c'est l'une, c'est pas l'autre. Et par conséquent, ceci est très important pour le raisonnement déductif. Pourquoi est-ce que ce raisonnement est valide? Parce que Parménide dit, si on en écarte une, alors l'autre nécessairement doit être acceptée. Et ceci est vrai, d'une part, si les deux sont strictement contradictoires, donc la démonstration que l'une n'est pas possible permet de déduire immédiatement que l'autre s'impose, est nécessaire. Hein. Donc ça, c'est une des conditions. L'autre condition, c'est qu'il n'y ait pas de troisième voie, évidemment. S'il y a une troisième voie, ce serait trop facile de dire y en a une qui est écartée, mais nous, on n'est pas d'accord avec la deuxième non plus, on pense qu'il y en a une troisième. Donc, c'est ici le principe du tiers exclu qui est introduit par cette stricte contradiction entre les deux voies. Le principe du tiers exclu, c'est de considérer justement que dans certaines affirmations, il n'y a pas d'intermédiaire possible. Vous avez une opposition stricte entre laquelle il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc cette troisième voie intermédiaire, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être de dire il y a des choses qui à la fois sont et ne sont pas. Et ça pourrait être que ça, cette troisième voie. Un mélange d'être et de non-être. Oui, il y a des choses qui en même temps sont et ne sont pas. Et donc on ne peut ni dire rien n'est, ni dire il y a quelque chose qui est. Vous voyez? Mais Parménide dit justement que cette contradiction exclut toute troisième voie. Et ça, on va voir par la suite comment il l'exclut, justement. Donc, mais il faut bien voir que son raisonnement n'est valide qu'à cette condition-là. À cette condition-là, il est valide. Donc, il commence par écarter la voie qui dit « rien n'est ». Et comment est-ce qu'il l'écarte? C'est ce qu'on vient de lire. « Car tu ne pourrais ni connaître ce qui n'est pas, car ce n'est pas possible, ni le montrer. » Autrement dit, tout repose sur l'exigence de la connaissance. Si rien n'est, rien n'est connaissable. On ne peut pas connaître, on ne peut pas penser, on ne peut pas avoir une philosophie ou une science. Il n'y a que du devenir et donc que de l'opinion, hein, parce que ce qui va avec le devenir, c'est l'opinion. J'ai l'opinion que ceci est froid, mais je sais bien que ça va changer, etc. Par conséquent, si tout le raisonnement repose sur cette exigence qu'il y ait une connaissance, on voit bien qu'il repose en fait sur un désir de connaissance. Au fond, c'est parce que Parménide veut rendre la connaissance possible qu'il développe tout ce raisonnement. Si on veut que la connaissance soit possible, alors il faut dire que quelque chose est. Voilà comment il amène son objet, vous voyez? Évidemment, si on dit ça nous est complètement égal que la connaissance soit possible, comme feront par exemple les sophistes, à ce moment-là, on n'a plus besoin de tout le raisonnement. On dit alors ça nous est complètement égal aussi que quelque chose soit. Vous voyez? Et donc on voit bien que ça repose finalement sur un choix qui, lui, n'est pas démontrable. Est-ce qu'on veut ou pas que la connaissance existe? Ce n'est pas un choix démontrable. C'est une sorte de position philosophique. Est-ce que je pose que je veux qu'une connaissance soit possible ou pas? Voilà sur quoi ultimement ça repose. Alors, je vous propose de lire encore le fragment 6 aujourd'hui. Le fragment 6, donc entre les deux, il y a quelques petits fragments qui étaient un petit peu des digressions, donc on pouvait les laisser tomber. Le fragment 6, il reprend un peu la même thèse d'une manière légèrement différente. Et puis, il parle justement de cette troisième voie. Comme ça, le raisonnement sera complet. Il faut dire et penser que l'étang est. Alors ici, vous allez me dire, ah, mais voilà le sujet exprimé. Il faut dire et penser que l'étang est. Oui, le sujet est exprimé. Mais qu'est-ce que c'est ce sujet? Ce sujet ne dit rien de plus que le verbe, puisque le sujet dit juste ce qui est. Et une interprète que je trouve vraiment très très intelligente de Parménide, qui s'appelle Barbara Cassin, fait remarquer que ce sujet, l'étang, est en fait issu du verbe. C'est une substantivation du verbe. C'est-à-dire que c'est à partir du « est » qu'on a posé comme nécessité qu'on tire ce qui est. Mais ce qui est n'a aucune autre détermination que le fait d'être, c'est tout. On ne dit toujours pas ce que c'est. Et on ne le dira jamais. Donc on continuera à parler de l'étang, mais ça n'a plus rien à voir avec les étangs du sens commun, enfin du sens courant, les étangs des physiciens, donc toutes les choses dont nous avons l'expérience, les phénomènes, ça n'a plus rien à voir avec ça. Désormais, quand Parménide dit l'étang, ça veut dire ce qui est au sens précis et strict de ce qu'il appelle être. Voyez, donc ce sujet ne dit rien. Autrement dit, c'est comme si on était toujours sans sujet, en tout cas sans sujet déterminé. On n'identifie toujours rien. Donc il faut dire et penser que l'étang est, car il est possible d'être, mais que rien ne soit n'est pas possible. Moi j'ordonne d'indiquer cela, car de cette première voie de la recherche, je t'écarte. Donc cette première voie de la recherche, je t'en écarte, c'est la voie qui dirait rien n'est. De cette première, il l'écarte, après il va l'écarter de la voie intermédiaire. Mais tout d'abord, encore une petite précision pour vérifier si le raisonnement est valide. Vous pourriez dire, il ne suffit pas de dire « il est possible d'être ». Ce n'est pas convaincant parce que le possible n'entraîne pas que c'est le cas. Ce qui est possible n'est pas nécessaire. Donc pourquoi est-ce que c'est convaincant de la part de Parménide de dire « il faut affirmer la voie est parce qu'il est possible d'être ». Eh bien, c'est convaincant à partir du moment où on a dit « l'autre voie n'est pas possible ». Et qu'on a bien établi que c'est ou l'une ou l'autre, et nécessairement l'une ou l'autre. Donc si on en écarte une comme impossible, il suffit que l'autre soit possible pour qu'elle soit réalisée. Puisqu'il faut bien qu'il y en ait une, des deux. À partir du moment où il y en a une des deux qui doit être effective et qu'il n'y en a qu'une qu'on reconnaît comme possible, eh ben c'est celle-là qui sera effective. Donc ça ne veut pas dire qu'on assimile le possible au réalisé. Ça reste deux choses distinctes. Une chose possible ne va pas nécessairement se réaliser, même en restant possible. Mais à partir du moment où on dit l'une des deux doit être réalisée, alors ce sera celle qui est possible, ce ne sera pas celle qui est impossible. Donc vous voyez, le raisonnement de cette manière-là, encore une fois, est valide à cette condition. Donc on s'écarte de la première voie, mais ensuite de celle qu'inventent les mortels à deux têtes. Alors voilà une manière imagée de dire ceux qui hésitent entre les deux, deux têtes ils ont, qui ne savent rien, car l'incapacité dans leur poitrine dirige l'intellect errant. Leur intellect erre d'une voie à l'autre et n'arrive pas à se décider. Ils sont entraînés, sourds autant qu'aveugles, stupéfaits, foule indécise, indécis ils sont, on n'arrive pas à se décider, pour qui être et ne pas être est considéré comme la même chose et pas la même chose. Et leur chemin à tous retourne en sens inverse. Donc voilà la troisième voie. Il y en a qui, effectivement, essayent de soutenir cette troisième voie intermédiaire, mais ils sont complètement absurdes et complètement, on voit bien la faiblesse de cette tentative, la faiblesse de ce raisonnement qui dit il y a peut-être des choses qui en même temps sont et ne sont pas, autrement dit quoi, être et ne pas être, ça veut dire la même chose. En même temps, puisqu'on dit qu'elles sont et ne sont pas, on dit qu'être et ne pas être, c'est pas la même chose. Enfin, vous voyez. Et ça, c'est simplement écarté d'un large revers de la main, parce que c'est une position qui n'a pas d'appui, qui ne repose pas justement sur un raisonnement convaincant. Et donc, il peut conclure, fragment 7, « Car jamais cela ne l'emportera que des non-étants soient, mais toi, de cette voie de la recherche, écarte ta pensée. » Que des non-étants soient, vous voyez, c'est une manière de mettre ensemble des contradictoires, d'essayer de faire tenir une contradiction. On dit que ce sont des non-étants, donc des choses qui ne sont pas, et en même temps, on dit qu'elles sont. Des choses qui ne sont pas, elles sont. C'est une contradiction. On ne peut pas affirmer une contradiction comme celle-là. Et là, vous voyez que c'est un des rares fragments qui est cité déjà par Platon et Aristote. Et Platon s'en sert pour justement commettre ce qu'on a appelé, ce qu'il se défend d'être un parricide envers Parménide, mais enfin, ce qui est quand même pour lui un dépassement de la pensée parménidienne, c'est-à-dire Platon va justement dire, d'une certaine manière, on peut mélanger l'être et le non-être, mais je vous en parlerai peut-être à une autre occasion, ça, de la théorie de Platon dans Le Sophiste. Il va dire qu'il y a un certain non-être dans tout ce qui est. Juste pour ne pas maintenir trop le suspense, juste en deux mots, quel est ce non-être? C'est le non-être par altérité. C'est-à-dire que ce n'est pas un strict contradictoire de l'être, ce n'est pas le rien. Mais chaque chose qui est, elle est quelque chose. Mais par rapport à une autre, elle n'est pas cette autre. Donc en même temps, elle est ce qu'elle est, en même temps, elle n'est pas ce que sont les autres. Donc en même temps, elle est quelque chose et elle n'est pas autre chose. Évidemment, c'est par rapport... C'est relativement à des points de vue différents. C'est des rapports avec des points de comparaison différents. Et donc, ça ne contrevient pas au principe de non-contradiction. C'est-à-dire, je vous rappelle que le principe de non-contradiction ne dit pas qu'il est impossible d'affirmer deux opposés en même temps de la même chose. Il ne dit pas juste ça, sinon il serait faux. Il dit... Il n'est impossible d'attribuer à la même chose deux opposés, donc par exemple l'être et le non-être, en même temps et sous le même rapport, évidemment. Si on n'ajoute pas sous le même rapport, c'est trivial que c'est faux. Mais on dit sous le même rapport, c'est-à-dire donc, par rapport à la même chose, relativement à la même chose, dans les mêmes parties, etc. Donc si on dit qu'une chose ne peut pas être à la fois blanche et noire, on ne veut pas dire évidemment qu'elle ne peut pas être... blanche dans une partie et noire dans une autre, blanche aujourd'hui et noire demain, etc. Ou même, à la limite, blanche pour un individu et noire pour un autre qui verrait autrement. Donc, tout ça, évidemment, est prévu dans le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction dit on élimine, évidemment, toutes ces relativités, ces rapports, ces différents points de vue. Et donc, on dit on ne peut pas dire en même temps qu'une chose est blanche et noire sous le même rapport, dans sa même partie, pour la même personne, etc. etc. Donc en elle-même. Et là, blanc et non-blanc ne vont pas ensemble. Donc quand Platon dira « il y a un certain non-être », il ne nie pas le principe de non-contradiction. Hein. Il ne nie pas, au fond, et c'est pour ça qu'il a raison de dire qu'il ne commet pas un parricide envers Parménide. Il a raison de s'en défendre. Et on a tort de dire que Platon commet un parricide, c'est faux. Parce que justement, Platon a bien compris que ce que excluait Parménide, c'était le rien, le non-étant comme rien total. Hein, et c'est cela qui s'opposait complètement à l'étant et qui ne pouvait pas être compatible, pas pris en même temps. Mais le non-étant que Platon, lui, affirme être, c'est un non-étant qu'il appelle justement relatif. C'est un non-étant uniquement par relativité à un autre être. Hein, c'est uniquement un non-étant dans un rapport avec autre chose. Et donc, ce n'est pas le non-étant absolu qu'excluait Parménide. Donc, il ne commet pas de parricide. Hein. Parménide exclut le non-être absolu au sens de du rien. Platon réhabilite un certain non-être en disant que chaque fois qu'on établit une altérité entre deux choses, eh bien, l'une n'étant pas l'autre, elle est d'une certaine manière un non-être. Mais ce n'est jamais que d'une certaine manière. Voilà, je crois que je vous ai assez chauffé les ménages pour aujourd'hui. Et donc, on passera à la suite la semaine prochaine. Et donc, n'hésitez surtout pas à demander des approfondissements sur ce qui vient d'être dit, soit sur Gorgias, sur Parménide, sur leur relation. Je vous en prie.
Donc pour se rassurer un peu, est-ce qu'on peut se dire que la seule chose qui change pas, enfin qui ne change pas, c'est le changement? Ce serait plus petit.
Alors c'est dommage qu'il ne vous ait pas connu, parce que je ne crois pas qu'il y ait aucun philosophe qui ait dit ça, mais d'une certaine manière ils l'ont dit d'une autre façon, par le fait que le changement ne se fait pas de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que le changement suit des processus réguliers, en fait. Et donc, si on comprenait cette idée, le changement ne change jamais, au sens de, il n'y a aucune régularité dans le changement, donc tout se fait dans un chaos total, hein, chaque changement étant complètement différent d'un autre, étant purement singulier, hein, purement accidentel, singulier, sans raison, sans cause, identifiable, repérable, répétable, etc. Si c'était ça, alors eux, ils n'auraient jamais dit que ça suffisait pour dire il y a quelque chose qui ne change pas. En revanche, puisqu'ils observent que dans tout changement, il y a des choses qui sont régulières, et qu'on peut déjà dire qu'il y a des types de changements qui reviennent, qu'il y a des causes de changements qui reviennent, qui sont répétables, prévisibles. À partir de ce moment-là, on peut dire que dans le changement lui-même, il y a de l'être. Dans le changement lui-même, il y a des choses fixes. Il y a des choses permanentes. C'est la régularité du changement qui est permanente. Mais effectivement, la formulation de cette manière, non, je ne l'ai jamais vue nulle part chez eux. Mais pourquoi pas, hein, c'est dommage qu'il n'ait pas eu à se positionner sur cette formulation.
J'en arrive à me demander si vraiment je suis là, si nous sommes tous là, si nous sommes. Bon, c'est un train de plaisanterie. Je voudrais revenir à ce verbe être. Je ne suis peut-être pas du tout dans le sujet. Lorsque Moïse rencontre Yahvé lui dit « Je suis celui qui suis », quelle est l'importance de ce verbe? Est-ce que ça se retrouve ailleurs, cette présence, ce fait d'être et qui signifie en fait une espèce d'éternité, quoi. Il est, voilà. Et en plus, dans cette parole, il y a cette incompréhension de je suis, on attendait je suis celui qui est. Mais non, c'est je suis celui qui suit. Alors là, on est complètement. Ça me fait complètement. Nous perdons, n'est-ce pas, dans le sens de. Permettre. commun avec cette recherche dont on vient de parler, de ce qui est, de ce qui n'est pas, de, des étangs. Et...
Oui, merci. C'est effectivement très, 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 très important cette similitude. Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la pensée hébraïque, donc je ne peux pas en dire énormément, si ce n'est que cette importance du verbe être, peu importe d'ailleurs comment il s'exprime, puisque bon, déjà là, on est dans deux familles linguistiques et culturelles différentes, le domaine sémitique et le domaine indo-européen, et pourtant dans les deux cas, hein, on voit bien qu'il y a une telle importance, enfin je ne pense pas que c'est de l'expression de l'être, mais en tout cas du fait d'être, c'est la même importance. Alors, à mon avis, c'est tout à fait indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une filiation hein, d'une culture vers l'autre, il n'y a pas besoin de supposer ça, mais ça me paraît être assez évident qu'à partir du moment où on réfléchit en ces termes de « il y a le monde qu'on observe, qui se transforme constamment, dont on ne sait pas s'il a toujours existé, dont on se demande quelle est son origine, d'où il a bien pu surgir, est-ce qu'il va avoir une fin ?» Est-ce qu'il va être détruit? Est-ce que... Voilà, à partir du moment où on voit bien la précarité de toute chose, c'est une conséquence assez logique, qu'on suppose assez naturelle à l'homme, à n'importe quel être humain, de se dire, il y a peut-être autre chose qui échappe à ça. Il y a peut-être une chose qui échappe à cette nécessité d'apparaître un moment et de disparaître à un autre moment, quelque chose qui justement soit ce qu'on a appelé éternel, ne soit pas dans le devenir. Et d'autant plus dans des pensées de la création, encore une fois. Parce que, évidemment, si quelque chose. Si tout a été créé, ou est apparu hein, à partir de conditions antérieures, ces conditions antérieures, justement, il faut qu'elles échappent à cette nécessité d'être elles-mêmes créées, hein, à moins de concevoir une infinité de générations successives, hein, une infinité de générations successives où chaque fois. Ce qui était précédemment engendre ce qui suivra. Mais ça a été très, très... Je ne pense même pas que ça ait existé comme type de pensée. Donc, en fait, quand on pense ce qui a pu créer, ce qui est la cause de l'univers changeant, on essaye de penser plutôt une cause elle-même inchangeante pour qu'elle puisse rendre compte de ce qui existait avant. Parce que sinon, on a ce gros problème, et d'ailleurs, on va le voir dans la suite du texte de Parménide, il va affronter cette question de la possibilité que l'être soit apparu à un certain moment et doive disparaître à un autre moment. Et il l'écarte, c'est impossible de le concevoir comme ça. Sinon, on est toujours ramené à « mais qu'est-ce qu'il y avait avant ?» et « pourquoi ça a changé ?» Pourquoi est-ce qu'avant il n'y avait rien et puis c'est devenu quelque chose? Donc on est obligé de penser à un certain moment à quelque chose qui existe depuis toujours, dont on ne soit pas obligé d'expliquer l'apparition, la naissance. Donc ça me paraît assez, s'imposer comme pensée. À partir du moment où on a ce désir que quelque chose soit l'origine de tout et soit est un autre statut que tout ce monde phénoménal, on va le penser comme permanent. Et donc on va insister sur ça, parce que c'est évidemment c'est ce qui caractérise essentiellement cette cause et origine première, c'est le fait d'être. Hein. C'est pas étonnant qu'on insiste à ce point là-dessus. C'est ça qui la différencie de tout le reste. Tout le reste est dans le devenir, tout le reste est changeant, sauf ça. Donc c'est bien sûr là-dessus qu'on insiste. Mais voilà, mais pour ce qui est vraiment précisément de l'origine biblique de tout ça, je ne peux pas en dire plus.
Oui, alors ce que vient de dire Michel, là, ça me fait penser au fait que Nathan, sans arrêt, est revenu sur la parole de Yahvé, sur ce fameux « je suis celui qui est » ou « je suis celui qui suit ». Et il en faisait d'une certaine façon... ça lui permettait de définir son sujet désubjectivé, une chose qui s'affirme, mais sans caractéristique, c'est-à-dire je suis celui qui suis, c'est-à-dire voilà, je ne peux pas, il n'y a rien d'autre à dire, je suis l'être. Mais enfin, sauf que ce n'est pas comme ça que c'est dit, et je crois que c'est en hébreu, mais ça je le tiens des séminaires de Lacan, je ne suis pas plus spécialiste, hein. C'est le tétragramme, hein, c'est des que des consonnes, il n'y a pas dedans de Yahvé. C'est la traduction de Yahvé. C'est ça, hein. C'est que des consonnes sans voyelles, et en fait, après, on le traduit comme on peut. On le traduit comme on peut.
Mais ça, c'est vrai que c'est général aux langues sémitiques de ne pas écrire les voyelles, n'écrire que les consonnes. Ça, c'est effectivement, c'est général. Mais bon, je ne sais pas si c'est lié à ça le problème. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est que c'est vrai qu'on a pu dire que l'être, ça peut être le prédicat le plus vide de tous. À partir du moment où on dit être, on ne dit rien de la. Ça peut être le prédicat qui ne dit rien de la chose. Je suis, mais je suis quoi ? Je suis comment, hein, donc ça peut être l'absence totale de détermination dans cet exemple. En revanche, je pense que quand Parménide dit « est », ou quand, je pense aussi, la Bible dit à propos de Dieu « je suis », là, au contraire, c'est un prédicat qui concentre une énorme détermination, parce que c'est ça qui le permet de s'y différencier de tout le reste. Si on utilise « être » dans le sens courant du terme, et que chacun de nous dit « je suis », on ne dira rien, parce que tous les autres aussi sont, tout le reste aussi est. Et donc, on attend la suite, je suis quoi ? Tandis que si on le prend dans un sens non courant, dans le sens d'opposé au devenir, alors ça a une indication, une identification totale de la chose. Il suffit de dire je suis, et ça différencie immédiatement de tout le reste. Hein, donc, c'est vraiment deux utilisations différentes du verbe.
Je fais une petite précision. Attends, passe-moi.
Une précision, puis ça correspond aussi à au problème du changement ou de la temporalité. Dans le terme Yahvé, je suis, c'est la négation aussi du temps. C'est-à-dire que dans le langage hébraïque, il n'y a pas de temps qui dit qu'il y a le passé, le présent, le futur. Donc ça veut dire je suis, ça veut dire j'ai été, je suis, je serai. Il n'y a pas de commencement, il n'y a que la durée, donc il n'y a pas d'immuabilité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement non plus. Et donc il y a limite une. Il n'y a pas d'origine du coup, puisque le temps n'existe pas. Quand on dit je suis, ça veut dire que je suis, sans temporalité aucune.
Il n'y a pas de début.
Il n'y a pas de début, voilà. Mais parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de présent, de futur, d'éclairement, tout ça. Alors moi, ce que j'ai du mal à comprendre, je comprends, mais alors, le gage de la connaissance, c'est la donnée de l'être. Voilà. Pas du non-être, c'est ça?
Tu as dit un moment, pour rendre la connaissance possible, il faut dire que quelque chose est.
C'est bien ça. Voilà. Ça veut dire que pour dire que quelque chose est, on passe par le langage. Donc il y a une relation entre dire que quelque chose est et pouvoir le dire. Voilà. Bon. Alors après, bon, je ne sais pas. Donc ça, c'est, j'ai du mal à articuler ça. Et puis la deuxième chose, ça veut dire que pour dire, il faut dire que quelque chose est, si on dit que quelque chose. Et ça veut dire qu'on atteint la vérité, ce qui n'était pas la recherche des sophistes. Bon, c'est un peu par rapport au discours. Alors, c'est un peu compliqué.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Alors, pour répondre, le problème, c'est qu'il faut anticiper sur la suite du poème, parce que ce sont déjà pour deux passages différents. Donc, le premier, c'est la question du temps. On va voir justement par la suite que Parménide aussi nie le passé et le futur et affirme une sorte de présent incessant. Et de fait, lorsque Platon, par exemple, reprendra ça et pensera l'être à sa manière, donc c'est-à-dire les choses qui ne sont que intelligibles et qui ne changent jamais, il dira de la même façon qu'elles ne sont pas dans le temps, qu'elles n'ont pas de passé ni de futur. Il y a pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de distinction. Pour qu'il y ait un passé et un futur, il faut qu'il y ait changement. Il faut qu'il y ait une distinction possible à partir d'un changement. Il faut qu'il y ait un état antérieur qui soit différent d'un état postérieur. Sinon, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de passé ni de futur. On est dans un éternel présent, quoi. Et donc, c'est ça que Platon a appelé l'éternité, mais au sens de un présent continu sans aucune distinction à l'intérieur. Et alors, la deuxième chose très importante sur laquelle tu anticipes, c'est le rapport entre la pensée, le dire et l'être. Et on va voir que... il y a que Parménide distingue deux manières d'utiliser le langage. Et donc il y a une manière qui effectivement ressemble à celle du sens courant, du sens commun, qui est le fait de nommer. Hein. On assiste à tel phénomène et on le nomme. Donc à ce moment-là, c'est aussi l'usage qui permet à un sophiste de venir dire « mais en fait, quand tu nommes cela, tu n'es pas sûr que tu nommes cela, hein, tu n'es pas sûr que ton langage correspond à la chose que tu essayes de nommer, etc. » Donc là-dessus, on peut jeter ce doute. Et Parménide distingue ça d'un véritable dire ou d'un véritable penser qui ne peut avoir pour objet que ce qui est. Que ce qui est. Et donc à ce moment-là, pour lequel il y a une correspondance qui est par définition. La correspondance entre les deux est par définition. Pourquoi par définition? Parce qu'on a défini l'être, enfin ce qui est plus exactement, on l'a défini comme ce qui peut être pensé et dit. Et uniquement ça. C'est ce qui peut être pensé et dit. C'est ce qu'on pose comme objet de la connaissance au sens de la pensée et du dire, mais alors du dire véritable. Et ce dire véritable est opposé à la parole courante ou au fait de nommer simplement les choses. Mais là, on anticipe, mais c'est... Ouais, c'est bien.
Si j'ai bien compris, tu dis « est possible » et « n'est pas possible ». Est-ce que ça veut dire que « possible » et « n'est pas » en même temps?
Tu fais un syllogisme à la Ionesco là. Non, là on a une opposition stricte. Si l'un est possible, l'autre est impossible. Et possible, alors possible n'est pas un étant. Donc on n'a pas tellement à s'interroger sur le statut. De possible en tant qu'étant ou non étant.
Le même mot, toujours possible, pas impossible.
Oui, mais c'est pour le nier. Hein, donc, en fait, on considère que la contradiction peut... Enfin, ça vraiment, tous les Grecs sont d'accord là-dessus. La contradiction, elle s'exprime ou bien avec la négation, ou bien avec le préfixe « un », hein, donc le « impossible », donc le « alpha privatif » en grec. Hein. Donc ça, c'est parfaitement indifférent pour eux. Hein. Donc le fait d'utiliser le même terme en le niant leur suffit. Et je pense que c'est parce qu'il y a quand même justement cette conscience de l'arbitraire de la langue. Le langage peut se permettre d'exprimer la contradiction de différentes manières. C'est pas pour ça que la chose elle-même, du coup... est de différentes manières. Donc le possible n'est que d'une manière, mais on peut l'exprimer de différentes façons. L'impossible, même chose. Il y a une chose qui est impossible, enfin, le rien est impossible, mais on peut l'exprimer de différentes façons. Donc il y a quand même, tout le monde est d'accord avec une certaine indépendance du langage par rapport aux choses qui sont visées par lui. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais... ce n'est pas un problème la manière dont s'exprime le possible et l'impossible. Alors ça va, tout s'explique.
En fait, il nous dit que le néant n'existe pas. J'ai bien compris.
Voilà, on peut l'exprimer comme ça. Hein, le rien, hein, il dit le rien, est totalement inconcevable. Donc il n'y a pas le rien. Il n'y a pas le rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose.
D'une part, c'est un peu surprenant que des êtres vivants se demandent s'il est possible que rien ne soit. Donc c'est un peu paradoxal déjà dans la question. Puis par ailleurs, ça c'est tout à fait indépendant, dans l'opposition entre Parménide et Platon, enfin où Platon reprend un peu pour atténuer la proposition de Panini, est-ce qu'il n'y a pas un problème simplement d'ambivalence du verbe être, c'est-à-dire Parménide, il dit est dans le sens existe, et Platon, il dit est dans le sens d'un mot de liaison entre le sujet et une de ses qualités, qui peut être il est ceci ou il est comme ceci.
Oui, oui, ça c'est une autre distinction. Alors par rapport à la première question d'abord, non, j'ai bien dit que la question n'est pas la question triviale, est-ce que les phénomènes existent ? C'est forcément, si c'était cette question-là, ça n'aurait aucun sens de la poser. Quand on se demande est-ce que quelque chose est ou est-ce que rien n'est, c'est pas au sens de est-ce que il existe des choses phénoménales, hein, des états sensibles ou pas. C'est pas dans ce sens-là, sinon ça n'aurait effectivement aucun sens. Donc c'est bien au sens où on donne à être un sens opposé au devenir. Et donc on se demande est-ce que, en dehors de toutes les choses qu'on voit se transformer constamment sous nos yeux, en dehors de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de manière permanente ? Et certains disaient, en dehors de ça, il n'y a rien qui est de manière permanente. Donc là, on a vraiment une opposition entre des courants philosophiques qu'on peut identifier. Il existe quelque chose à côté du devenir ou pas ? Par rapport à la deuxième question, ça c'est important effectivement de préciser que quand Platon dit que une chose en même temps peut être et puis ne pas être une autre, il ne prend pas seulement le « est » au sens copulatif, donc comme tu disais, hein, au sens qui introduit un attribut, mais il le prend aussi au sens existentiel, c'est-à-dire que si on dit pardon, que une chose, qu'il y a des non-étants au sens existentiel, au sens existentiel, il ne peut pas le dire, effectivement. Ce qu'il peut faire, c'est la différence entre des attributs essentiels et des attributs secondaires. Donc il peut dire que si on essaye de définir ce qu'une chose est en elle-même, donc par exemple, est un homme, quand on dit Socrate est un homme, et qu'on dit en même temps Socrate n'est pas un cheval, donc en même temps on lui attribue un certain être et un certain non-être. Et ça ne changerait pas si au lieu de lui donner son attribut essentiel qui est homme, on lui donne un attribut secondaire ou accidentel qui est blanc. Ça ne change pas. On pourra dire en même temps Socrate est blanc, on lui attribue un être qui est un être inessentiel, et Socrate n'est pas noir, on lui attribue un non-étant tout aussi inessentiel. Donc là, il n'y a pas de différence. Maintenant, effectivement, si on passe au jugement d'existence, le « est » comme existence, alors une chose ne peut pas en même temps être et ne pas être. Hein, donc, puisque si on lui reconnaît l'existence, on ne peut pas en même temps la nier. Et là seulement, Platon ne remet pas en question, encore une fois, le principe de non-contradiction, et certainement pas sur ce point-là. Il n'empêche que ce n'était pas ça que Parménide voulait dire non plus. Parce que Parménide, quand on dit qu'il excluait seulement le non-être absolu, et Platon aussi, c'est qu'on ne dit pas, on ne demande pas si une chose en particulier est ou n'est pas, on dit est-ce qu'il existe ne fût-ce qu'une chose qui est, ou est-ce que rien n'est, donc tout n'est pas, si on veut. C'est ça le non-être absolu qu'au fond Platon partage avec Parménide, enfin, l'exclusion qu'il partage avec Parménide, c'est celle qui serait dire « rien n'est ». Après, il y a une autre distinction importante pour Platon, mais qu'il reprend aussi à Parménide, hein, tout à fait, qui est, de nouveau, là, ils sont tout à fait en accord, c'est la distinction entre les choses qui sont au sens courant du terme et les choses qui sont en un sens limité, réduit, strict, philosophique, qui est cette manière d'être, d'être permanent. Donc, pour répondre sur le fait que Platon s'oppose à Parménide sur certaines choses, et comme tu l'as dit, c'est ça, il s'oppose à Parménide sur le fait qu'on puisse dire d'une chose que en même temps elle est et elle n'est pas. Alors, pourquoi est-ce que... Ouais, je vais préciser, c'est pourquoi est-ce que ça ne Pourquoi est-ce que ce n'est pas non plus simplement du domaine des phénomènes? Parce que si c'est simplement du domaine des phénomènes, ça n'importe pas à Parménide, dire sur les phénomènes, de toute façon, l'être ne s'attribue pas à eux. Les choses en devenir, ni pour Platon ni pour Parménide, ne reçoivent le mot « être ». Donc de toute façon, ça ne s'applique pas à la question. Mais Platon, il l'applique à ses idées. Et la grande différence entre Parménide et Platon, c'est que Parménide, il affirme, on va le voir juste après, que l'étang est un, unique et non divisé. Et nécessairement, il doit être unique et non divisé. Alors que Platon, son être, enfin son étang, hein, ce qui est, il le divise en les multiples idées. Ce qui est pour Platon, ce qui est au sens strict, au sens de permanent, ce sont les idées, les formes, c'est-à-dire les formes éternelles, c'est-à-dire que pour toute chose, pour tout phénomène, il existe une forme qui est la notion générale de cette chose. Et donc, elles sont multiples. Et donc, Platon introduit la multiplicité dans ce qui est. En cela, il se distingue vraiment de Parménide. Parménide refusait absolument qu'il y ait une multiplicité dans ce qui est. Et Platon l'introduit. Donc là, effectivement, ça fait une grande différence. Et donc, dans ce cas, Platon est obligé de dire que, par conséquent, ces étangs multiples, ces formes ou idées multiples, d'une certaine manière sont, elles sont, puisqu'on affirme justement que c'est ça l'être, mais en même temps, elles ne sont pas les unes par rapport aux autres, mais entre elles. Donc, il ne parle pas ici des choses en devenir qui, sous certains rapports, sont changeantes, sont différentes. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il dit tout de suite qu'il ne se situe pas au niveau des choses sensibles. Il se situe uniquement au niveau des formes. Donc, à leur propos, se pose la question, elles sont, par définition, elles doivent être, et en même temps, elles ne sont pas chacune les autres. Donc, d'une certaine manière, elles ne sont pas. Mais elles ne sont pas, encore une fois, ce n'est pas au sens absolu. Ce n'est pas au sens où elles n'existent pas. Donc, effectivement, c'est au sens où être introduit un attribut, une identification, une identité qui est donnée à la chose.
Est-ce que ce n'est pas une grande illusion? On a l'illusion d'exister, enfin d'être, mais en fait c'est une illusion. Comme, est-ce que les atomes s'aperçoivent qu'ils existent?
Bon, alors ça, c'est, évidemment, c'est le problème de la conscience, la conscience d'exister. C'est-à-dire, quel être autre que l'être humain a la conscience d'exister? On n'en sait trop rien. Mais... par rapport à l'illusion, il faut dire aussi que ça dépend en grande partie de ce qu'on met, de la signification qu'on attache au mot. Parce que le fait qu'on se demande si on existe est tout à fait artificiel. Est tout à fait artificiel si on prend exister au sens courant du terme. C'est évident qu'on existe. C'est-à-dire sous quelle forme on existe, de quelle façon on existe. Est-ce qu'on est juste un acte mental qui s'imagine avoir un corps, se trouver dans une pièce, on dirait du Descartes, là c'est la question de Descartes, est-ce que j'ai vraiment un corps, est-ce que je suis vraiment au coin de ce feu, ou est-ce que je suis juste une pensée réduite à l'illusion que je suis un corps, etc. Donc on peut effectivement avoir cette impression que tout est illusoire et que tout peut être mis en question, mais on existera quand même. Et c'est bien là le sens de la thèse de Descartes, c'est de dire, oui, mais même si je ne suis que ça, que cette illusion, je suis quand même quelque chose. Donc j'existe. Et à partir du moment où on a cette conscience, on part de cette conscience, peu importe ce qu'on est, en tout cas on est bien quelque chose. Mais ça c'est au sens courant d'exister. Maintenant, si on se demande, est-ce que je suis à la manière dont Parménide ou Platon disent l'être, il y a peu de chance. On aimerait bien peut-être, mais on sait bien qu'on se transforme et que... Et qu'on est dans le devenir et qu'on n'est pas, un être permanent, quoi. qu'on n'est pas l'être éternel. Enfin, ou alors, si on s'imagine être l'être éternel, c'est grave.
Et comment un philosophe chinois, dont j'ai oublié le nom, a pu dire est-ce que je suis moi-même, donc, qui rêve qu'il est un papillon, ou est-ce que je suis un papillon qui rêve qu'il est ce philosophe?
Oui, il y a l'argument du rêve, c'est-à-dire qui est aussi un argument classique, du doute. du doute sur, en tout cas, le mode d'existence. Alors, c'est pas un doute sur l'existence, hein. Il ne se demande pas s'il est d'une manière générale, il se demande juste qu'est-ce qu'il est, puisque parfois il peut rêver qu'il est un papillon. Donc à ce moment-là, est-ce que ce ne serait pas ça la vérité, enfin, ou si vous voulez, ou l'état de veille? Le moment où il rêve qu'il est un papillon, c'est peut-être ça son état réel, et puis tout le reste serait du rêve, quoi, hein. Donc c'est un jeu sur l'indistinction entre rêve et réalité. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait convaincue qu'il n'y ait pas de distinction entre le rêve et la réalité. Je veux dire, du point de vue simplement de la conscience, quoi, hein, de l'expérience même. Quand on fait l'expérience d'un rêve, même si on ne se rend pas compte au moment où on rêve, hein, qu'on est dans un rêve, ce qui arrive aussi, mais même dans le cas contraire, bah, quand on se réveille, on sait qu'on se réveille. À l'inverse, si on rêve qu'on se réveille... vous allez me dire, c'est toujours a posteriori, évidemment, qu'on se rend compte qu'on a rêvé, hein, c'est toujours quand on se réveille. Mais alors, quand on est dans l'éveil, on peut mettre à l'épreuve de toutes sortes de manières qu'on ne rêve pas. Toutes les choses sont absolument distinctes, on ne peut pas décider de faire ce qu'on a envie, on ne peut pas décider de s'envoler comme dans le rêve, on ne peut pas décider de...
Les dévies antérieures, peut-être, non ? C'est une question, je me demande pourquoi on a pu dire ça. Donc, est-ce que c'est pas...
Non, je pense que c'est parce que c'est vrai qu'au moment où on rêve, on croit qu'on est dans la réalité. Donc, pourquoi est-ce que ce serait pas vrai, hein, qu'on est dans la réalité? Puisque on a la même impression de vivre ce qu'on est en train de vivre comme si c'était réel. Et c'est seulement a posteriori, quand on se réveille, qu'on dit « Ah, ce n'était qu'un rêve ». Donc, par conséquent, par analogie, on dit « Mais donc, quand on croit qu'on est dans la réalité, on est peut-être dans un rêve ». Vas-y.
Bon, j'ai beaucoup hésité, mais quand on est dans l'état de supputation et de doute, moi j'ai fait depuis longtemps cette réflexion que l'art contemporain ressemble beaucoup, avec leurs décideurs, aux sophistes. C'est-à-dire à la façon de, comme j'ai bien écouté aujourd'hui, de ce discours du non-être, de la non-recherche de vérité, pour simplifier, ça va être très réducteur, hein, par rapport à vous, ce que j'ai à dire. Mais par contre, c'est juste ce qui me préoccupe beaucoup, ce qui explique souvent ma présence avec vous. Donc je fais un parallèle avec les sophismes d'aujourd'hui, le sophisme et les dirigeants de l'art aujourd'hui, qui ont un discours qui me paraît étonnamment proche, y compris une récupération sociale, politique, c'est très impressionnant de voir la sociologie en accord avec les historiens d'art, avec le marché de l'art, etc. Donc, le fait d'affirmer qu'il y a un système sans création pour les sophistes, c'est un réducteur, qui a nécessairement quelque chose qui est, fait penser que sans tous ces artistes et cette histoire de l'art, dont nous héritons, il n'y aurait pas d'art contemporain possible. Voilà, enfin, c'est une pensée très, très, très floue, très brouillonne, mais je pense qu'il y a quelque chose à établir dans le rapprochement du fonctionnement de la récupération de l'art, à même titre que c'était le cas pour les philosophes, pour les idées. Et je voudrais savoir jusqu'à quel point les sophistes ont fait avancer les idées, si j'ai... peut-être pas bien compris, que c'est pas fini non plus, les cours, ou si au contraire ce sont des emmerdeurs chroniques qui empêchent le monde de tourner, enfin les chercheurs de chercher, quoi. Enfin voilà.
Alors souvent les emmerdeurs font avancer les idées, donc c'est les deux. mais parce que c'est très intéressant, premièrement. Donc en général, le doute sceptique, il est toujours intéressant parce qu'il pousse à dépasser ce qu'on considérait jusque-là comme une évidence. Et c'est vrai que déjà sur toute la question du langage, avoir introduit ce bouleversement des évidences, parce qu'on a une confiance spontanée en le fait que nos mots désignent bien les choses qu'on veut désigner et que quand on dit quelque chose à quelqu'un d'autre, il nous comprend. Qu'ils pensent aux mêmes choses que nous, on veut désigner, etc. On a une sorte de confiance spontanée. Et pourquoi ? C'est tout à fait à tort. La confiance spontanée a toujours tort. Et donc, c'est très bien de la mettre en question et de dire, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que Bon, alors on a des expériences déjà simples du fait qu'on peut ne pas se comprendre, hein, ça c'est déjà une chose, qu'on ne met pas tous exactement le même sens dans les mêmes mots, hein, qu'on ne désigne pas nécessairement les mêmes choses non plus. Bon, ça c'est une expérience simple, ça ne remet pas en question tout le cadre, hein, toute la nature du langage, la nature référentielle du langage. Mais on pourrait douter de la nature référentielle du langage et se dire, est-ce qu'on n'a pas l'illusion que le langage correspond à quelque chose de réel dans les choses, de la même manière qu'on se le demande pour les sensations. Est-ce que ce qu'on ressent à partir des choses correspond à quelque chose de réel en elles? C'est la même question. Et donc c'est très bien qu'il l'ait soulevé. Après, eux, ils l'ont soulevé probablement. Hein, bon, alors on peut encore éventuellement discuter là-dessus sur leur intention. Il ne faut pas faire des procès d'intention trop vite, mais ils l'ont soulevé probablement à des fins d'autonomisation, hein, de leur art rhétorique par rapport aux choses, ne plus être contraint par l'adéquation au réel, et donc pouvoir avoir un discours qui défend ce qu'il veut, peu importe si ça correspond aux choses ou pas. C'est sûr qu'ils ont utilisé ça. Est-ce que c'était leur seul but, c'est une autre question, ou est-ce qu'ils avaient quand même un vrai but aussi, disons, identique à celui des philosophes, c'est-à-dire de comprendre le rapport? C'est possible. Mais en tout cas, il est certain qu'ils ont utilisé ces questions dans leur propre intérêt, hein, pour pouvoir justifier le fait que la rhétorique ne tienne pas compte de la vérité, et que ce soit la vérité théorique, mais surtout la vérité, enfin, ce qu'on pourrait appeler une vérité pratique, c'est-à-dire, par exemple, dans un cadre judiciaire, le plaidoyer ne tient pas compte de ce qu'il en est réellement, de ce qui s'est réellement passé. Ce qui compte, c'est d'emporter le procès, et peu importe que ce soit vrai ou pas, que l'accusé soit vraiment innocent ou pas, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un détachement intéressé, hein, au sens péjoratif d'intéressé, un détachement intéressé du langage par rapport aux choses telles qu'elles sont. À propos de l'art, si j'ai bien compris, tu te demandes s'il y aurait de l'être, c'est-à-dire au sens d'une permanence, c'est-à-dire que, effectivement, avec au sens où l'art a vécu de multiples formes, s'est réalisé sous de multiples formes, et pourtant il y a bien quelque chose qui est permanent, qui fait qu'on reconnaît chaque fois que c'est de l'art, hein, et peut-être une exigence ou une condition qui fait que on puisse dire ceci est de l'art. Et ça rejoint plutôt la question de l'essence, qui est aussi une forme de être, c'est aussi une manière de dire l'être, c'est quelle est l'essence de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce qui est commun à toutes les formes différentes d'art, et au fait que, effectivement, l'art évolue, mais cependant, il reste art. Donc c'est la différence entre ce qui reste permanent dans un phénomène et ce qui évolue, ce qui se modifie, ou ce qui est simplement différent selon les cas particuliers. Et donc là, on touche à la question de l'essence qui va apparaître un petit peu plus tard, mais c'est pas dans ce texte-ci. Ça apparaît un petit peu plus tard, et en tout cas, c'est tout à fait problématisé par Platon. Donc c'est vrai, oui, ça nous mène à cette question-là aussi. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais en tout cas, voilà, ça permet de penser ça aussi.
C'est le problème du concept sur c'est devenu conceptuel, c'est devenu complètement fictif, enfin un jeu d'idées et plus une réalité dans le fait. Enfin, non mais là j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais c'est bon, en tout cas merci, et puis oui, je pense que sortira quelque chose de tout ça qui va m'enrichir. Non, ben, j'ai perdu le fil. Mais ah oui, par rapport à...
Je suis peut-être compris complètement de travers, hein, et que vous pensiez qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas de vérité dans l'art, qu'il n'y avait pas de recherche de vérité dans l'art, et que, alors Annick, elle répond sur l'essence, enfin, quelque chose qui ferait qu'on pourrait reconnaître ce qu'il en est d'une œuvre d'art. Moi, personnellement, par rapport à l'art moderne, je suis rarement, disons, frappé par quelque chose qui me fait dire ah oui, ça c'est de l'art. Donc peut-être c'est un peu ça que vous vouliez dire, hein, qu'il y a toute une glose autour. C'est pas ça?
Oui, c'est ça. Non, mais j'ai plus clair. Oui, effectivement, c'est implicite dans ce que j'ai dit. Mais effectivement, je veux dire, on ne peut pas effacer 20 ans, 40 ans d'art contemporain. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se clarifier un jour ou l'autre, on ne sera pas là, peut-être, ou peut-être encore. Mais oui, ça rejoint ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas pu, on peut plus définir ce qu'est l'art. Hein. Là, c'est clair, quels que soient les théoriciens, les spécialistes, ils sont tous un peu perdus. Et sur le terme de l'art, et sur la définition de l'artiste, et sur le rôle de la culture aujourd'hui, enfin, c'est sans fin.
Voilà. Oui, il y a un rapport à la vérité dans l'art. Hein.
Parce que c'est nécessairement, voilà, c'est fondamentalement, d'ailleurs vous en avez parlé à plusieurs reprises, de la nécessité de oui, on a parlé de la phénoménologie, là, plus ou moins. C'est, oui, je pense qu'on y revient d'ailleurs à ces choses essentielles qui ont été hors discours depuis des décennies, hors propos. Bon, enfin voilà, je vois à chaque fois amener un regard qui peut paraître péjoratoire, qui peut paraître, oui, qui peut paraître pour le coup non objectif.
Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une question de langage en fait, un langage différent dans l'art contemporain? Un autre langage, effectivement, qui hérite de tout l'héritage de l'art en général, mais est-ce que c'est pas un nouveau langage? Est-ce qu'on revient pas là un petit peu au début de l'explication sur...
Oui, donc tu peux passer Simone, s'il te plaît. Merci. Mais quand on dit ça, hein, je veux juste, sans me prononcer sur le fond, quand on dit « est-ce que ce n'est pas un nouveau langage ?», ça veut dire que l'art est langage, et que ces diverses formes sont différents langages. Et donc ça veut dire qu'on pose déjà quelque chose de commun à l'art, on l'identifie comme un langage. Donc c'est déjà lui donner une naissance, je pense. Dire l'art c'est une expression ou un langage. Après il faudra préciser, il y a d'autres langages et d'autres expressions dont on ne dit pas que c'est de l'art, alors... C'est qu'il manque quelque chose à la définition. Hein.
Ça se résume pas.
Voilà, exactement, ça se résume pas. Oui.
Et l'art contemporain
est
peut-être un nouveau langage de l'art.
Oui. Après, bon, c'est vrai que la question des définitions, elle n'est jamais close, je veux dire, puisque aucun de nous, comment dire, ne peut atteindre l'absolu et on doute même qu'il existe. Donc, les définitions. Elles sont d'une certaine manière dépendantes des individus, des époques, de la culture elle-même. Voilà, mais on aura encore l'occasion, je pense, de revenir sur beaucoup de ces questions, puisqu'on va poursuivre la semaine prochaine le texte de Parménide, et puis on va enchaîner sur Zénon, son disciple, et par Zénon, on abordera la question de l'infini et du continu, et donc tous les paradoxes autour de l'infini. À la semaine prochaine.